les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM.
C'est dimanche, il est 21h à Brest. Vous êtes à l'écoute de Radio U sur 101.1 FM, chers auditeurs, bonsoir. C'est l'heure des élucubrations d'Hermeline. Et vous, quel est votre souvenir vintage ? Un dimanche sur deux sur Radio U, 101.1 FM. N'hésitez pas à appeler le standard de Radio U au 02 98 03 82 61 si vous voulez passer à l'antenne. Ce soir, l'élucubration parle d'éloquence avec l'association Eloquentia Brest. Chers auditeurs, vous pouvez dès à présent et tout au long de l'élucubration contacter le standard de Radio U pour témoigner, partager, réagir au 02 98 03 82 61. On y va. Je reçois ce soir Paul Morvan, le président de l'association Eloquentia Brest. Paul Scandrani, c'est ça ?
C'est ça, Neil Scandrani.
Neil Scandrani, un des finalistes et le vainqueur du concours Eloquentia Brest 2026. Chad Ben Mahmoud, l'une des finalistes du concours Eloquentia Brest 2026. Et Léa Mangenot, une troisième finaliste du concours. Alors avant de passer la parole à Paul Morvan qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'association Eloquentia Brest, je rappelle que l'éloquence, selon le dictionnaire de l'Académie française, c'est l'art de bien parler, de persuader, d'émouvoir, d'entraîner par le discours. Racine latine, eloquentia, facilité à s'exprimer, talent de la parole. Alors, il y a le « et » signifiant « hors de », plus la « loqui » signifiant « parler, communiquer ». L'étymologie « communicare », »,« partager »,« mettre »,« avoir en commun », »,« en lien ». Paul Morvan, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que tu es d'accord avec ces premières définitions ?
Oui, je suis assez d'accord. Je pense que le plus intéressant pour moi, c'est la partie « mettre en lien » de l'éloquence, parce qu'on ne parle pas tout seul, on parle toujours à un public, on parle avec quelqu'un ou à quelqu'un. Et donc je pense que c'est la partie à laquelle je donnerai le plus d'importance dans cette définition.
Alors, le souvenir vintage de ce soir, eh bien, c'est le fait que je suis écrivain et que dès mon premier roman, qui a été publié aux éditions Les Oiseaux de Papier, je me suis aperçue que mon écriture n'était pas assez organique. Elle manquait de sentiments et de ressentis. Enfin, moi j'ai eu l'impression, et mes romans suivants n'ont fait qu'accentuer cette première impression. Et je me suis dit, comment faire évoluer mon écriture pour qu'elle soit plus éloquente ? Bah, c'est pour qu'elle soit plus éloquente, tout simplement. Et j'ai commencé par... Alors, c'est vrai que j'écoutais beaucoup de rap, de slam, et pour moi, l'éloquence, c'était un peu ça. C'était le rap, le slam, cette poésie-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à l'éloquence. Et je me suis dit que le meilleur moyen de faire évoluer cette écriture et de la rendre plus organique, c'était de passer par le théâtre. Donc j'ai commencé à prendre des cours de théâtre et ces dernières années, j'ai pris beaucoup de cours de théâtre et d'improvisation, ce qui m'a amené à m'intéresser au concours d'éloquence. Alors Paul, et à vous découvrir, j'ai aménagé à Brest il y a 6 mois, c'est l'occasion de découvrir Eloquentia Brest. Alors Paul Morvan, Eloquentia Brest, c'est une association.
Absolument.
Qui a été créée quand, par qui et comment elle est animée ?
Eloquentia Brest, c'est une association qui a été créée par un ami à moi, Joseph Derieux-Peraldi, il y a 3 ans. Donc c'est une association assez jeune, mais qui fait partie d'un réseau d'antennes beaucoup plus grand. Ce réseau, c'est Eloquentia. Donc c'est le plus grand concours, enfin c'est l'association qui organise le plus grand concours d'éloquence francophone au monde. Et le réseau d'antennes existe depuis 2013 et organise notamment chaque année un concours. Le but d'Eloquentia, c'est de permettre à tous de prendre confiance en leur prise de parole. Et j'insiste vraiment sur le fait que c'est pour tous. C'est vraiment dans l'ADN de notre association d'amener la parole partout, dans tous les milieux, parce que c'est malheureusement un élément qui est trop restreint et qui appartient trop à certains milieux, malheureusement. Et donc on essaie de faire ce qu'on peut pour
l'ouvrir.
Pour l'ouvrir, pour propager un peu la parole.
Alors, j'ai vu que vous proposiez... Alors, il y a ce concours, donc, auquel j'ai assisté. On en reparlera avec les trois finalistes. Et j'ai vu que vous proposiez des ateliers régulièrement également.
Oui, bien sûr. On a trois types d'événements qu'on propose avec Eloquentia Brest. Donc, le premier, c'est les concours. On en fait un par an. Ensuite, on a les masterclass où on invite des professionnels du milieu, comme par exemple des avocats, des journalistes, des formateurs en prise de parole, à venir faire une intervention sur un sujet qu'ils connaissent bien. On propose tout ça gratuitement à tout le monde, et donc tout le monde peut venir voir et profiter de cet enseignement-là. Et le troisième type d'événement qu'on propose, c'est les ateliers. Donc c'est vraiment le cœur de l'association. On en fait un toutes les deux semaines environ. Le prochain, ça devrait être jeudi prochain à 18h30. Et ces ateliers, on les fait pour tous, sur tous les sujets qui touchent à la prise de parole de près ou de loin. Donc, ça va être par exemple la gestion du stress, la gestion du corps, la gestion de son souffle, la construction d'un discours, comment on rajoute de la poésie dans son discours, enfin plein de choses comme ça, tout ce qui peut aider à construire un discours et en général à trouver sa voix et à avoir une meilleure idée de comment gérer ses prises de parole, notamment pour les gens qui stressent, pour les gens qui ont du mal à prendre la parole en public, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup aussi qui avaient du mal, qui ont travaillé sur ces difficultés-là, notamment avec Eloquentia, et qui depuis ont beaucoup beaucoup progressé, voire certains qui sont devenus presque des cadors de l'éloquence, et qui maintenant ne jurent que par la prise de parole.
Et quel est le type de public que vous recevez lors de ces ateliers ?
Alors les ateliers sont ouverts à absolument tout le monde. En général, on vise plutôt les étudiants et les jeunes adultes parce que notre concours est à destination des 18-30 ans. Donc, on a forcément mécaniquement plus de jeunes adultes et d'étudiants qui viennent à nos ateliers, mais vous pouvez avoir 15 ans comme vous pouvez en avoir 78 et vous pouvez venir à nos ateliers, il n'y a aucun souci pour ça.
Alors, j'ai vu les thèmes débattre, stress, impro, débat, expression. Donc c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Néanmoins, je pense que l'association a besoin de vivre. On adhère à l'association ou enfin, il y a une petite contrepartie ? Comment ça se passe ?
Alors, tous les événements qu'on fait sont gratuits, justement parce que le but de l'association, c'est de promouvoir la parole et de permettre à tout le monde de se former à la parole. Donc tous nos événements sont gratuits. Maintenant, si vous voulez nous aider, la meilleure façon de le faire, c'est de venir à nos événements ou de nous contacter. Par exemple par mail ou sur Instagram, pour devenir bénévole. C'est complètement faisable aussi et ça nous aide énormément parce que, comme pour toutes les associations, le plus dur, c'est de trouver des bénévoles qui viennent aider et qui viennent construire de belles choses avec nous.
Quel sera concrètement le rôle des bénévoles et est-ce que tu peux en profiter pour communiquer les coordonnées de ton Instagram et une adresse email ou un téléphone ?
Bien sûr. Donc les rôles de bénévoles, ils sont multiples. On a besoin de bénévoles pour animer des ateliers. Ça, c'est souvent la chose qui fait la plus peur parce que c'est assez dur de se lancer. On a souvent peur, déjà qu'on a peur de prendre la parole. Alors, prendre la parole et expliquer à d'autres gens comment on peut s'améliorer, ça fait encore plus peur, forcément. Mais ça, c'est qu'une des facettes. Il y a plein d'autres facettes de l'organisation d'une association. Il y a la recherche de partenaires. Il y a la création d'affiches, de publicités et la communication en général. Il y a l'organisation d'événements, que ce soit les concours, les masterclass. Ça fait beaucoup de gens à contacter, des salles à trouver, plein de choses comme ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de postes assez divers et assez diversifiés. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts. La seule chose importante, c'est d'avoir un amour de la parole et d'être motivé par le fait d'aider une association qui s'occupe d'aider à la parole.
Hashtag on prend la parole.
Hashtag on prend la parole, exactement. C'est le hashtag d'Eloquentia.
D'Eloquentia.
Et donc, pour nous retrouver, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, @eloquentia.brest, ou aussi par mail, si vous voulez nous envoyer un mail, eloquentia.brest@gmail.com.
Merci, Paul. Alors, avant de passer aux finalistes, et bah, je reviendrai, on rediscutera, Paul, puisque j'aimerais avoir des explications sur le concours local et national. Mais avant, allez, une bande son d'un de mes souvenirs de vintage d'écriture. Alors moi je suis très rap, on va dire Eminem et Dido, que j'écoutais sur la plage du Tressir quand j'écrivais mon premier roman.
Stanley, open the door.
What?
Stanley, what are you doing to yourself?
What the hell, you don't like it?
Stanley!
You like it?
Stanley!
Don't call me that! Don't call me that!
Don't you think you're taking this too far?
But you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn. You must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, what's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend keep himself over something who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan. Still ain't called a roll, I hope you have a chance. I ain't mad, I just think it's f***ed up you don't answer fans. If you didn't want to talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man, he's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you for 4 hours and you just said no. That's pretty f***ed, man, you're like a f***ing idol. He wants to be just like you, man, he likes you more than I do. Sometimes I even f*** myself to see how much it f***s like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too. The last package I ever send your ass. Been 6 months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in a car right now. I'm doing 90 on the freeway. I love you, Slim. We could have been together. Think about it. You ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me. See, Slim? I'm trying to talk. Hey Slim, that's my girlfriend. But I didn't the throw, I just see I ain't like you. Cause if she's suffering more, and then some too. Well, gotta go. I'm almost at the bridge now. Oh, I forgot. How am I supposed to send it out? Dear Stan, I'm
meant to write you sooner, but I've just been busy. You said your girlfriend's pregnant now. How far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that. And here's an autograph for your brother. I wrote it on the starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show. I must have missed you. Don't think I did that intentionally, just to diss you. But what's the you said about you like to your wrist too? I say that clowning, dog. Come on, how the bitch you? You got some issues, Dan. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls when you get down some. And what's the that's like it'll make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other, but maybe you just need to treat her better. I hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing just fine if you relax a little. I'm glad I inspire you, but Stan, why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan. I just don't want you to do some crazy. I seen this one on the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk and drove his car over a bridge. And in the car they found a tape, but they didn't say who it was to. Come to think about it, his name was...
Alors l'histoire de cette chanson, c'est Stan, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est Stan, un fan d'Eminem, envoie des lettres et il ne reçoit jamais de réponse. Il devient violent, de plus en plus obsédé, jusqu'au suicide et sa voiture qui chute, dans laquelle il y avait sa fiancée enceinte. Un bon thriller, et c'est plus ou moins l'histoire de mon premier roman. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet et justement comment on construit un discours. Mais avant cela, Paul, j'aimerais que tu nous expliques le concours Eloquentia Brest 2026. On va revenir sur les trois thèmes. Il y avait trois fois deux participants par thème. Et le concours national, comment ensuite on passe de l'un à l'autre.
Oui, alors je vous ai dit tout à l'heure que Eloquentia a organisé le plus grand concours d'éloquence francophone au monde. Donc ça, c'est le concours national ou international, c'est un peu plus exact. Mais c'est que la seconde partie. La première partie, c'est chaque antenne, chaque association, comme Eloquentia Brest par exemple, organise son concours local. Donc nous, c'est ce qu'on a fait pendant les mois de janvier à mars, où différents... jeunes adultes entre 18 et 30 ans viennent participer pour plein de raisons différentes. Il y en a qui viennent parce qu'ils adorent la parole, d'autres comme un défi, d'autres encore parce qu'ils avaient besoin de se bouger et de vaincre une vraie peur
leur stress,
de monter
track.
Sur scène et de vaincre leur stress. Voilà. Donc il y a ce premier concours qui se fait à l'échelle locale, donc Brest et environ. Et ensuite, le gagnant de notre concours, du concours Eloquentia Brest, ira affronter le gagnant des concours de chaque autre antenne. Donc il y en a une quarantaine au total, répartis dans tous les pays francophones. Et à l'issue de tous ces duels, on aura la finale internationale qui se passe tous les ans, en général à Paris. Cette année et l'année dernière, c'était à la scène musicale, donc c'est quand même une grande salle.
C'est chic.
C'est très chic. Il y avait 4000 personnes environ. J'y étais. C'était le 25 mars cette année. C'est toujours des événements absolument géniaux et c'est une chance inouïe pour le participant, enfin pour les participants qui ont cette opportunité et qui potentiellement n'avaient jamais eu de rapport à la parole avant Eloquentia.
Donc là, potentiellement, le vainqueur d'Eloquentia Brest 2026, donc Neil Scandrani, a une chance de se retrouver à la scène musicale où je ne sais pas où sera organisé.
C'est exactement ça. Alors, je ne sais pas non plus où sera organisée la prochaine finale internationale. Et donc là, Neil, qui est avec nous, cet été ira participer à, je pense, huitième de finale, demi-finale, quart de finale, demi-finale. Et s'il réussit à passer chaque tour, il pourra participer à la finale et donc monter sur scène devant potentiellement 3, 4, 5 000 personnes pour montrer tout ce qu'il a à dire et la façon dont il le dit.
Bon, 3, 4, 5 000 personnes, je crois que c'est au moins le nombre d'auditeurs de Radio U ce soir à 21h. Alors Neil, ça tombe bien, tu vas pouvoir répéter ton show face aux auditeurs ce soir. Alors, on va donc écouter Neil Neil Scandrani et Léa Mangenot, qui tous les deux donc, ont été finalistes, avec un thème qui est « Peut-on croire à une société juste ?» Alors, donc, on va participer, on va écouter une battle d'éloquence. On va commencer par Léa, qui est pour, et ensuite on va poursuivre avec Neil, contre. Léa, on t'écoute.
Parfait. Peut-on croire à une société juste ? Certains diront non. Ils diront que la société est pleine d'injustices. Mais ils oublieront une chose essentielle. L'histoire de celles et ceux qui ont refusé de se résigner. Mesdames, messieurs, membres du jury, je dois vous avouer quelque chose. À 10 ans, j'ai découvert l'injustice. Alors, la scène ne se passait ni dans un tribunal, ni dans un parlement. Non, elle se passait à la cantine. C'était un jour de pizza en entrée. Un grand jour. Il ne restait qu'une seule part. J'avais laissé tout le monde se servir. Par politesse ou par timidité. Et un camarade l'a prise. Je n'ai rien dit. Il l'a mangée sous mes yeux. À 10 ans, j'ai ressenti une injustice profonde. Une injustice gastronomique. Et j'ai pensé, voilà, la société est profondément injuste. Mais quelqu'un de la table s'est levé et a dit, « Eh mais ce n'est pas juste, il a déjà eu de la pizza, lui !» Ce jour-là, j'ai compris que l'injustice existe, mais que la justice aussi, même pour une part de pizza. Alors de la cantine à l'histoire, il n'y a qu'un pas. Platon disait, « La justice est le fondement de la cité. Sans elle, la société n'est que la loi du plus fort. » Mais qu'est-ce qu'une société ? C'est nous, ceux qui vivent ensemble, qui partagent des règles et des valeurs. Être juste, ce n'est pas simplement respecter la loi, c'est agir équitablement, c'est défendre ceux qui subissent l'injustice, c'est savoir dire non quand il le faut. Alors, une société juste ? C'est l'égalité, la solidarité, les droits pour tous. Dans quelques instants, Neil défendra l'idée qu'on ne peut croire en une société juste. Eh bien, heureusement que l'histoire ne l'a pas attendu pour avancer. Il fut un temps où de nombreux enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Où des peuples étaient divisés, des personnes exclues. Il fut un temps où les femmes n'avaient pas le droit de vote. À chaque époque, des voix se sont élevées contre l'injustice. Et peu à peu, la société a commencé à se transformer. Mais qui sont-ils, ces acteurs du changement ? Je vous donne un indice. I have a dream. That one day this nation will rise up. Oui, Martin Luther King ou encore Nelson Mandela. Puis moi je dis toujours, défendre c'est se lever. Et Rosa Parks m'a prouvé que parfois, pour changer l'histoire, il suffit de rester assis. Ces personnes n'étaient pas naïves, non. Elles savaient que la société était parfois injuste, et qu'elle le resterait à certains endroits pour une durée indéterminée, probablement. Mais elles avaient compris une chose essentielle. Si personne ne croit en la justice, eh bien personne ne se bat pour elle. Cette croyance pousse les gens à agir, manifester, voter, s'engager. Pouvoir y croire, ce n'est pas un devoir, libre à chacun de le vouloir. Mais soyons honnêtes, une société parfaitement juste n'existe pas. Non, la perfection n'existe pas, mais ce qui existe, ce sont les gestes, les mots, les choix que nous posons chaque jour, seuls ou avec les autres, dans les quartiers, les institutions, à l'école. Et parfois, elle apparaît là où on ne l'attend pas. Je me souviens d'un camarade accusé à tort et d'une voix qui s'élève. Ce n'est pas lui ! Simple, banal, puissant. Alors, messieurs, mesdames, croire en une société juste, c'est refuser un monde figé. C'est comprendre que la justice n'est pas un état, mais un mouvement. Fragile, imparfait, toujours inachevé, mais réel. Je repense à cette fameuse part de pizza. Oui, je ne l'ai pas eue. Mais ce que je retiens, ce n'est pas la pizza. C'est que ce jour-là, une personne s'est levée pour moi. Merci.
Merci Léa. Alors chers auditeurs, on peut applaudir Léa derrière votre poste de radio. N'hésitez pas à applaudir Léa. Bravo Léa.
Merci.
Donc Léa est pour. Elle croit en une société juste. Ce que Neil, et donc Neil ne croit pas à une société juste. Neil, c'est à toi.
Merci de me donner la voix pessimiste. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours cherché à rendre les gens heureux. alors redonner le sourire. Je n'ai jamais aimé les conflits, les disputes, et ai toujours pardonné facilement. Alors, comprenez le désarroi dans lequel je suis maintenant. De venir briser devant vous ce que nous voudrions tous tenir pour acquis. Après avoir écouté Léa et notre cœur, nous voudrions tous qu'il soit possible de croire à une société juste. Et pourtant, je me tiens devant vous, avec la lourde responsabilité de devoir lever le voile sur l'une de nos plus grandes illusions. Au fait, c'est quoi une société juste? Parce qu'une société, on se représente assez bien ce que c'est. Un groupe d'hommes qui ont décidé d'unir leurs forces, les associer dans le but pour chacun d'en retirer un bénéfice. On se met d'accord sur la répartition du pouvoir. Pour ça, on écrit des lois. Et le tour est joué. On a une société. Mais une société juste. Juste, selon quels critères? Commençons par trier un petit peu les types de sociétés. Un régime autoritaire, dictatorial, mettez le terme que vous voulez. L'histoire est déjà passée par là, pour nous montrer que la justice y pourrit, au fond d'un cachot. Mais par l'effet que j'appellerais celui de la paille dans l'œil du voisin, on peut assez vite dégager des critères pour caractériser une société juste. Égalité de tous devant la loi. Reconnaissance de droits inaliénables. Tout ça pour maximiser le bonheur de chacun. On est déjà bien lancé sur la voie des philosophes des Lumières pour en aboutir à l'idée de démocratie, république et tout le toutime. Alors, pourquoi ce débat? Pas besoin de réfléchir bien longtemps. On l'a déjà, cette société juste. Elle est là, juste derrière ses portes. On peut donc y croire. Et pourtant, je me tiens devant vous, m'apprêtant à éteindre le projecteur qui nous aveugle tous. La croyance est un phénomène tout à fait singulier. Pour croire à quelque chose, nous avons besoin de divers ingrédients. Des indices nous laissant penser que c'est possible, sans pour autant nous le démontrer. Il faut aussi qu'aucune preuve du contraire n'existe. À partir de là, croire que cette chose est vraie est une démarche active. Les indices nous mettent sur la voie, mais nous devons choisir de faire le reste du chemin sans certitude. C'est cela, croire. C'est exactement le principe de la foi. Nous avons des écrits, des messagers et des miracles, mais c'est à chacun de choisir s'il veut croire en Dieu ou non. Aussi, peut-on croire à une société juste? A-t-on réellement ces ingrédients à notre disposition? Nous parlions tout à l'heure de critères pour une société juste. N'avons-nous pas là notre premier indice? Nous parlions aussi de la paille dans l'œil du voisin, et tant que nous parlions de la poutre dans le nôtre. La théorie est un monde fascinant. Mais nous vivons dans celui de la réalité. Ces principes des Lumières ont été appliqués aujourd'hui dans nos républiques démocratiques et sont-elles des sociétés justes? Au point de justifier qu'on aille ensemencer d'autres pays avec nos graines de liberté guidées laser. Sur le fronton de chaque mairie où chaque Français est appelé à voter demain, sont inscrits liberté, égalité, fraternité. Ah, égalité dont nous parlions tout à l'heure. Égalité de tous devant la loi. Vraiment? Quand le riche ou le puissant peut engager une armée d'avocats pour noyer le poisson et mieux se défendre qu'avec un commis d'office? Le principe d'égalité est très beau et nécessaire pour une société juste. Mais son application manque de justesse. Et mes exemples sont français, mais restent valables à l'étranger. La démocratie se veut le système le plus juste possible, où le pouvoir arrête le pouvoir, pour citer Montesquieu. Mais comme toute société, elle reste une concentration de pouvoir, avec son lot d'abus et d'imperfections, parce que nous sommes humains. La démocratie est un mauvais système. Mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes, disait Churchill. Et c'est précisément là que nous nous faisons tous avoir. Malgré tout ce que nous montre l'histoire, la mise en pratique ratée de nos plus belles théories, nous nous obstinons à vouloir penser qu'une société juste est possible. Et comment nous en vouloir? Vous vous voyez dire à votre enfant de 5 ans qu'il vivra toujours dans une société injuste et qu'il doit apprendre à se hisser sur le dos des autres pour en souffrir le moins. L'espoir fait vivre et nous avons besoin de nous mentir à nous-mêmes, de nous dire que cette élection sera la bonne, qu'une société juste est possible. Même si au fond de nous, nous savons que ce n'est pas le cas. Non, nous ne pouvons pas croire à une société juste. trop de preuves viennent nous démontrer que c'est impossible. Même si nous l'ouvrirons tant, nous ne sommes que des fanatiques qui, pour une fois, s'accrochent à une bien belle idée, certes, mais qui ne reste qu'une hallucination provoquée par une overdose d'espoir. Le jour où notre âme en sera sevrée, les élèves roses disparaîtront, abattus par la nature humaine.
Merci Neil, on applaudit Neil, merci. Neil, donc finaliste à l'unanimité du jury, enfin finaliste, ça c'est sûr, finaliste de ce concours cette année, et donc vainqueur du concours 2026 à l'unanimité du jury. Alors croire ou ne pas croire en une société juste n'est pas tellement le propos ce soir. Nous, on va plutôt aborder les coulisses de croire ou ne pas croire en une société juste avec Léa et Neil. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà, première question, pourquoi vous êtes-vous inscrits tous les deux à ce concours d'éloquence et est-ce que c'était la première fois? Est-ce que vous êtes déjà adhérent de l'association? Quel est votre rapport à l'éloquence? Alors, Léa?
Bien sûr. Alors, si je me suis inscrite à ce concours d'éloquence, c'était pour me challenger. Parce que je sais que je suis à l'aise à l'oral, je prends la parole régulièrement dans mon parcours professionnel, mais j'avais envie de progresser. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un concours, parfois, pour progresser. Pour être honnête, j'avais extrêmement peur. Hein. Tout ce qui est concours, apprendre par cœur, le jury, être évalué, j'en étais tétanisée. Mais je dis toujours que quand j'ai peur, j'y vais. Et j'y suis allée. Ben, je n'ai pas regretté. Vraiment, pour moi, ça a été un boost. Et aujourd'hui, je vois déjà en fait, les résultats sur ma prise de parole. C'est nettement amélioré. Et en tout cas, je remercie Eloquentia pour tous les bons conseils que l'on a pu recevoir par le jury.
Alors j'en profite pour souligner que Léa, tu as une émission sur Radio U.
Exactement, tout à fait. On me retrouve tous les premiers lundis du mois ici à Radio U, tout à fait, depuis un an et demi.
Et le concept de ton émission?
C'est de mettre en avant les structures locales en faveur de la santé mentale.
D'accord. Et le titre?
C'est l'émission Synopsie.
Voilà. Très bien. Voilà, on se fait notre propre pub ici sur Radio U.
Exactement, il faut.
Super. Neil, donc toi, pourquoi t'es-tu inscrit? Oh là là, je suis pas la meilleure en éloquence en tout cas ce soir. Hein. Pourquoi t'es-tu inscrit donc à ce concours?
Pour ma part, il y a un petit peu, comme disait Léa, une envie de me challenger, d'aller travailler une compétence qui n'était pas du tout mienne auparavant. J'ai un profil scientifique et l'éloquence, la prise de parole en public, ça a toujours été ma bête noire un petit peu. J'étais vraiment pas à l'aise et j'ai commencé à en avoir marre de me dire moi aussi j'ai des choses à dire, j'ai une voix, j'ai une parole, j'aimerais bien savoir m'en servir. Donc je vais m'inscrire à un concours, je vais travailler pour essayer d'acquérir les outils qui me permettront de m'exprimer et de transmettre ce que je veux transmettre. Et du coup, ça a été cette démarche-là, l'inscription à Eloquentia, et ce que j'y ai trouvé au-delà du concours, où effectivement on a eu beaucoup de retours très constructifs, ça a été les ateliers, les bénévoles qui ont répondu à cet appel.
Alors, c'est gagné hein, pour toi, parce que t'es quand même le vainqueur.
Plutôt,
quoi.
Oui.
Alors, concernant l'écriture, on va commencer par l'origine. Alors déjà, le thème... Qu'est-ce que vous... Alors, je pose plusieurs questions comme ça et vous allez... peut-être on va discuter à bâton rompu, mais qu'est-ce que vous a inspiré le thème quand vous avez pris connaissance du sujet? Comment vous êtes-vous documenté pour aborder ce sujet? Est-ce que vous aviez le choix entre ce sujet? Alors, je rappelle les trois sujets. Il y avait l'entraide, est-elle un devoir? Faut-il se comprendre pour s'accepter? Et peut-on croire à une société juste? Est-ce que vous aviez le choix du sujet? Qu'est-ce qui vous a fait choisir votre sujet? Et si vous n'aviez pas le choix, comment vous êtes-vous documenté? Et ensuite, on va passer à l'étape de l'écriture. Qui veut commencer à prendre...
Je vais laisser la parole à Léo.
Oui. Alors, on n'a pas le choix du sujet. C'est un sujet qui est imposé, que l'on reçoit un petit temps à l'avance. Alors, comment j'ai réagi? Alors, il faut savoir que moi, c'est mon premier concours d'éloquence. Et depuis le bac de philo, je n'avais jamais traité de questions de la sorte. Je ne savais même plus comment on faisait pour structurer des idées ou déconstruire un sujet. Donc ça, c'était tout nouveau. Donc comment j'ai réagi quand j'ai reçu le sujet de la finale? Étonnamment, plutôt bien. Je me suis dit, ça peut le faire. C'est un sujet très, très large. Mais je pense que ça pourra le faire. Et, Et en tout cas, j'étais ravie de traiter ce sujet. Tous les sujets que j'ai pu avoir, en tout cas, m'ont inspirée.
C'est-à-dire que la société aujourd'hui invite peut-être à se poser cette question
parce Oui, c'est une question qu'on peut se poser en fait, dans la vie de tous les jours. Donc,
À mon époque vintage, cette époque qui a inspiré mes élucubrations, post-crise, post-après-guerre, enfin bien, nous on n'avait aucun souci, quoi. Il n'y avait pas de guerre, pas de crise, pas de... On n'évoquait même pas jamais le racisme, enfin il n'y avait pas tellement de sujets... dans les années 80 ou 90, qui nous invitait à avoir ce genre de débat, cette réflexion. Et Neil, quant à toi, du coup, tu as reçu le sujet, et qu'est-ce que tu as pensé ?
Ma réaction était plus ou moins... Ah oui, quand même. Il y a pas mal d'idées dans cette phrase.
Ah, c'est large, hein, oui.
Peut-on croire à une société juste ? Donc j'ai tourné le sujet pas mal dans ma tête, et je me suis dit, bon, il y a trois idées. Il y a trois points sur lesquels il faut se pencher. Peut-on, donc pouvoir, la notion de possibilité, croire, qu'est-ce que c'est que croire, et juste. Qu'est-ce que c'est que la justice, juste selon quels critères. Et au final, ces critères, ces trois points, on les retrouve dans mon discours. C'est eux qui structurent plus ou moins mon discours. Donc je me suis vraiment penché là-dessus, je suis allé regarder les définitions, l'histoire du mot, l'étymologie un petit
peu. Ah oui, j'allais te poser cette question en t'écoutant, parce que c'est ce que je fais moi quand j'écris. Dès qu'un mot me vient, parfois même certains mots qui me viennent quand j'écris, je ne les connais même, enfin je sais qu'ils existent puisqu'ils me viennent en tête, mais je ne suis pas sûre de leur définition et je ne sais pas comment ils me viennent. Et mon premier réflexe, c'est effectivement le dictionnaire juste à côté de moi systématiquement. C'est ce que tu as fait.
Oui, ouais, exactement. Et je les renote, comment on dit ? J'y réfléchis longtemps. Et ce travail de définition, de réflexion sur le sujet, toutes les idées qui me viennent, je les écris sur 24 heures. Et ensuite, je me laisse 24 heures où...
Tu laisses poser ?
Tout ça tourne, ça mijote là-haut. Et ensuite, je passe à la phase où... Je commence à essorer le tout et à essayer d'écrire.
Ah oui, et toi Léa, tu laisses poser pareil et t'écris ou t'écris alors, d'emblée ou...
Comment j'ai fait Alors moi, quand j'ai reçu le sujet, j'ai traité le sujet des deux façons, que je sois contre ou pour. Je me suis dit, ok, moi je sais que je suis pour, mais je vais essayer de comprendre ce que mon contradicteur pourrait apporter comme argument. Je me suis vraiment renseignée sur le sujet, de manière générale. Donc ça a duré une journée où j'ai posé vraiment toutes les idées à l'écrit. Pareil, après j'ai laissé poser. Donc, moi j'étais dans un contexte aussi particulier pendant la préparation de mon concours. J'étais en plein voyage, donc c'était assez difficile pour moi de tout équilibrer. Mais voilà, ce que je faisais, c'est que dès que j'avais du temps, je me documentais. Ça c'était vraiment les premiers jours. Et après j'ai vraiment commencé l'étape d'écriture. Moi je fais toujours d'une traite. Vraiment j'écris sans trop réfléchir, même si c'est pas structuré, c'est pas grave. Je laisse poser et ensuite je retravaille le texte. Et après, c'est la phase de mémorisation. Et là, je retravaille le texte jusqu'à la dernière minute. Vraiment, des fois, je change des phrases. Vraiment, c'est une longue préparation, mais aussi une grande phase de documentation. Parce que c'est un sujet qui peut être aussi difficile. C'est difficile à argumenter, donc il fallait trouver les arguments. Mais pareil, j'ai essayé de déconstruire. Mais c'est vrai que j'avais pas trop la technique de déconstruire le sujet. Ça, je l'ai vraiment appris grâce au retour des jurys. Donc maintenant, normalement, je suis rodée.
Alors, on va donner la parole à présent à Chad Ben Mahmoud. Et on va prolonger la discussion ensemble. Mais Chad a une particularité, c'est qu'elle a rajouté une forme poétique à son discours d'éloquence. Le sujet, Chad, faut-il se comprendre pour s'accepter ? Alors, je crois que tu étais contre. Tu étais pour ou contre ?
J'étais pour, choix, contre.
Ah, eh bien, écoutez, on va l'écouter et on va
essayer de deviner.
On va essayer de deviner. À toi.
Figurez-vous que la vie m'a accusé de gâcher ma vie. Il ne manquerait plus que celle-ci se mette à donner son avis. Elle m'a dit que j'avais 20 ans, toutes mes dents, et que je ferais mieux de les planter dans le présent. Que je feignais de m'accepter, que je n'avais même pas le courage de me capter. Moi, j'étais bouche bée, je ne savais pas que la vie était diplômée d'un master en psychologie. Si je devais résumer cet entretien, il disait que l'acceptation exigeait une profonde compréhension. Jusque-là, rien de choquant. Mais elle m'a arrêtée avant d'ajouter « Ne confonds pas accepter un fait et comprendre ce même fait. » Elle a traqué la source de ma jalousie, celle qui me tord le ventre au regard d'un père et de sa fille. Elle a déterré les cris de mon enfance dont elle perçut la résonance à travers mes silences. Elle a cité mon amour, celui dont je fais don trop abondamment, pour combler un vide, bien évidemment. Ce qui m'a brisée, c'est qu'elle avait raison. Ma jalousie est le fruit de mes envies. Le cri de mon enfance n'avait jamais eu d'absence. Quant à mon amour, eh bien, j'en donne trop pour mériter un retour. J'avais fait ce constat, et avec le choix de dessiner une toute autre version de moi, sans excéder moi, qui marcherait toujours droit, une version sans malfonction, mais qui ne reste que fiction. Parce que la compréhension, eh bien, ça demande trop d'attention. Sénèque l'avait pourtant écrit, on a beau changer de décor, on s'emporte toujours avec soi. Je n'ai rien contre le métier d'acteur, j'avance simplement le risque de ne plus différencier le vrai du faux, un peu à la Lorenzaccio qui, en se perdant dans le scénario, avait laissé son masque pénétrer sa peau. Les accessoires ont beau camoufler la plaie, une guérison sans examen demeure une épopée sans paix. Je sais le confort à croire l'acceptation sans la compréhension, l'homme préfère l'ignorance bien qu'elle demeure la pire des violences, mais j'ai vu de ces femmes, ornées des taches de la couleur du ciel, de celles qui croyaient avoir épousé un rêve, qui aujourd'hui supplient pour un jour de trêve dont le seul crime relève, d'avoir cédé à l'acceptation sans être passée par la compréhension. Parce que comprendre rime juste trop bien avec se rendre, l'on est maintenant criminalisé de vouloir panser nos plaies. On oublie que de Socrate à Spinoza, les plus grands esprits se sont compris avant de donner vie à une philosophie. S'accepter, c'est se consentir à être tel que l'on est, avec nos défauts, nos blessures et nos qualités. Et puis elle avait raison, la vie. La phrase bidon qui dit croquer la vie à pleines dents est plus vraie que certaines citations et la vie aurait un goût exquis si nous la vivions guérie. Comment puis-je promettre ma loyauté et ma patience si je ne sais même pas quel démon gouverne mon silence ? Faire croire qu'il est possible de s'accepter sans se comprendre, c'est tendre au monde un chèque en bois, une arnaque, une idée qui n'existe pas et voyez, je ne suis pas de la gente masculine pour vous avancer un aussi gros mensonge. La vie sans compréhension n'est qu'un misérable songe, un exil permanent où notre propre vérité se ronge. À force de fuir ce qui nous confronte, l'on finit par déserter notre véritable monde. On accepte alors cette médaille de bronze, le prix de celui qui pour autrui se montre, car le numéro 2 n'est qu'un paravent qui performe pour la foule en s'oubliant. Voici tout ce dont je dispose, ma voix, ma plume et ma prose, parce que je refuse de conter un jour à mes enfants le regret amer de n'avoir été qu'une passante de moi-même, parce que si je parle de ces femmes perdues, c'est que dans mon sang coule celui de ma mère, elle qui s'est jetée dans la misère pour m'épargner d'horribles éclairs. Et puis il y a les récits de ma grand-mère qui me crie de ne jamais me laisser tomber, que m'accepter ce n'est pas finir standardisé au profit d'une société aussi dérangée. M'accepter c'est me comprendre, cesser de fuir pour ne plus me vendre. S'accepter c'est le courage de s'inviter à sa propre table, de comprendre ce qui nous accable. C'est de comprendre qu'à certains endroits, l'âme va si mal qu'elle mérite un pansement de soi, que la liberté d'expression s'applique aussi avec soi, et que ce soir, vous méritez un rencard avec votre relation la plus ringarde ou la plus cucard, vous et votre miroir. Merci.
Bravo, Chad, merci. Chers auditeurs, on applaudit Chad, Neil, Léa. Alors, toi, tu as choisi une forme un peu plus poétique, et surtout sur un sujet qui est la connaissance de soi, qui est beaucoup plus intime que peut-on croire ou non en une société juste. Quand tu as reçu déjà ce sujet, qu'est-ce que tu as ressenti ?
En fait, à chaque fois que je reçois, j'ai reçu deux sujets jusque-là. Le premier, c'était « Faut-il préparer l'avenir ?» Et c'était non. Cette fois-ci, c'était un oui. Du coup, faut-il se comprendre pour s'accepter ? Et je me suis dit, mais pourquoi à chaque fois, il me donne des sujets avec lesquels je ne suis pas en accord ? Et donc, ce que je fais à chaque fois, c'est que j'essaye un peu d'ironiser le fait que moi, en n'étant pas en accord avec ces sujets-là, je me perds et que dans ce cas-là, en soi, ma thèse a la raison, même si je ne suis pas d'accord avec. Et du coup, j'essaie un peu de me baser sur ça. Mais c'est vrai qu'il est toujours compliqué de traiter un sujet qui va à l'encontre de nos habitudes et de ce qu'on suit, nous, tous les jours. Et du coup, ça demande un peu plus d'effort. Donc, au début, c'était un peu compliqué.
Alors, comment t'es venue l'idée de ces rimes, de cette forme particulière ?
Alors moi, ce que je fais, c'est que chez moi, j'ai toujours des post-it à côté de moi parce que des fois, je fais des choses, mais rien à voir. Et j'ai une phrase qui me vient en tête et j'écris. Du coup, en fait, j'ai pas forcément de manière de faire. Je crois que j'ai juste un esprit inventif et super inspiré. Et des fois, j'ai des idées qui me popent dans la tête. Et il faut toujours avoir un bloc-notes à côté pour les noter. Sinon, ça part.
Donc, tu écris tout le temps ?
J'écris tout le temps. Ça, c'est une de mes passions de base, juste écrire. Donc, c'est un peu ancré en moi, quoi.
Et sur le fait que le sujet était intime, ça t'a perturbé ou
Absolument
ça t'a...
Absolument pas.
Non, au contraire ?
Non, vu que j'écris déjà de base, j'écris beaucoup de poèmes, j'écris des romans. Je me base toujours sur ma personne, bien que Marcel Proust ne serait pas d'accord avec moi. Je trouve que dans notre œuvre, il y aura toujours une part de nous, qu'on le veuille ou pas. Ce sera toujours influencé par nos convictions, nos valeurs, notre histoire. Et justement, je trouve ça encore mieux que ce soit un sujet intime.
Alors justement, tiens, tu me donnes une super transition. L'une des questions que je voulais vous poser à tous les trois, c'est quelles sont vos influences ? J'ai entendu Sénèque, j'ai entendu, mais je ne sais plus qui. Est-ce que vous avez des influences ? Est-ce que c'était important pour vous de proposer des citations dans votre discours ? Est-ce que c'est un sujet qui vous a travaillé, ce sujet des citations et des influences ?
Personnellement, moi, je sais que je lis beaucoup de psychologie et de philosophie et que pendant le concours aussi, je lisais énormément. Et quand j'avais un sujet et que je lisais un passage qui me rappelait mon sujet, je l'annotais. Et donc, parfois, c'était des citations, parfois, c'était simplement des idées, des thèses. Et du coup, ça m'aidait, oui. C'était pas forcément une obligation. C'était surtout que ça pousse dans l'argumentation, en fait.
Et moi, si je peux peut-être donner aussi une anecdote, c'est vrai que quand j'ai reçu le sujet, j'ai pensé à une fresque murale qu'il y a à côté de là où je vis. C'est Nelson Mandela. Voilà. Et je me suis dit, peut-être que c'est une personne qu'on cite assez régulièrement, mais moi, ça m'a inspirée pour créer mon texte, parce que je m'inspire beaucoup de ces figures relativement connues. Pour écrire, pour m'inspirer. C'est vrai que de le voir là, je me suis dit « Ah, je vais en parler ». Et c'est comme ça que j'ai construit mon texte. Voilà, c'est juste en voyant une fresque murale. Après, voilà, j'ai pas forcément eu d'inspiration réellement, mais ça serait ça, en tout cas.
Finalement, il faut être avant tout curieux, à l'affût, observer autour de soi, écouter en permanence. C'est ce que...
C'est ça, tout à fait.
Neil ?
Sur les influences, c'est... Question qui me prend un peu de cours, j'ai pas trop d'idées.
J'en ai une autre alors. Mais... parce que ça, c'est un vrai sujet pour moi aussi. J'ai été beaucoup sur scène à diverses occasions, dans divers contextes. Et c'est toujours un grand problème, la mémorisation, apprendre par cœur, ne pas apprendre par cœur. Alors moi, c'est pour ça que le théâtre, j'ai complètement abandonné, parce que pour moi, apprendre par cœur, c'était juste impossible. Donc je privilégie l'impro. Qu'en est-il de vous trois ? Et comment vous apprenez par cœur ? Comment vous avez réussi à mémoriser ces textes ?
La répétition, beaucoup. Oui. J'ai dû répéter sur au moins 4 ou 5 heures chacun de mes discours. Donc, à chaque fois, le fait de le répéter, au fur et à mesure, notre oreille s'habitue à entendre à peu près les mêmes mots défiler. Et du coup, les idées s'agencent à peu près comme ça. Et j'ai eu un conseil d'un de mes professeurs, Yann-Louis Candré, qui m'a dit d'associer une image marquante à chacun de mes paragraphes, de prendre une idée, l'idée principale du paragraphe, et de lui associer une image.
Par exemple, avec ton discours.
C'est ce que je suis en train de regarder.
Pendant que tu cherches, vas-y.
Par exemple, quand je commence à faire des allusions au proverbe avec la paille dans l'œil du voisin et la poutre dans le sien, je vois un brin de paille. Et puis ce brin de paille, je le fais interagir avec mon projecteur du paragraphe suivant. Et je me construis comme ça une histoire où j'ai chaque objet qui est placé entre deux autres, et du coup ça permet de restructurer aussi mentalement dans le discours. Ok, j'ai telle idée, elle est entre celle-ci qui est à gauche, celle-ci qui est à droite, et du coup on retrouve un peu le fil. Et donc quand on le déclame, on essaie de suivre un peu cette histoire mentalement, et du coup il faut prendre des grands objets ou même un brin de paille, et on l'agrandit, on le fait mesurer 300 mètres si on veut, on le déforme, on le met en mouvement, et comme ça on le retient beaucoup mieux.
Finalement, tu as un petit court-métrage qui défile.
C'est ça.
Bon, ok. Alors, c'est une technique. Les filles, Léa, Chad.
Ah, mais moi, la mémorisation, c'était un réel défi. Hein. Quand j'ai vu le message pas droit au texte, j'ai fait « Ouf, je serais incapable d'apprendre par cœur un texte ». Et donc, je me suis souvenue de quand j'étais étudiante, de qu'est-ce qui marchait pour moi. Moi, j'ai une mémoire visuelle. Donc, ce que je faisais, c'est que j'écrivais mon texte sur Google Drive et je mettais des couleurs à chaque idée. Je mettais une couleur et je mettais par exemple les débuts de paragraphes en plus gros. Comme ça, dans ma tête, je savais par quoi ça commençait. Et donc, je mémorisais comme ça. Dès que j'avais une partie que je savais par cœur, je mettais en fluo. Et comme ça, ça me permettait de visualiser ma progression. Et alors, comment je travaillais les textes ? Comme je dis, j'étais en voyage à ce moment-là. Donc, à chaque fois que j'étais dans le train, dans le bus ou quand je marchais, je récitais. Je récitais quand je marchais. Ça marche assez bien sur, ben pour moi en tout cas, c'est marcher, réciter. Et c'était au moins parfois 2 heures par jour. Parfois, par exemple, pour la première fois avec le premier sujet, moi c'était 4 heures par jour à certains moments aussi, comme Neil, parce que vraiment c'était très compliqué d'apprendre par cœur pour moi. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Voilà.
Alors une deuxième technique, c'est finalement un peu une masterclass hein, cette émission ce soir. et Chad, alors... Moi qui écris aussi des chansons, je me suis aperçue que le rythme et la mélodie ou les mesures me permettaient moi de mémoriser le texte, le contenu. Est-ce que ça a été ton cas, toi, qui a un flow, comme on dit, assez impressionnant là ?
Je ne sais pas trop, parce que je n'ai pas forcément technique accepté la répétition, mais moi j'ai toujours été très familière avec les mots. C'est-à-dire, en fait, moi je dis toujours que je suis amoureuse des mots. Et si j'écris quelque chose que j'aime, je vais le retenir. Le premier discours, je sais que je l'ai écrit en un jour et que je l'ai retenu en un jour parce que j'aimais ce que j'ai écrit et parce que je me sentais bien le jour même. C'est-à-dire que je pense que, vu que j'ai toujours été passionnée, c'est juste en moi maintenant. Je suis très reconnaissante d'ailleurs.
Alors, on a souligné l'actualité de Léa. Est-ce que tu veux nous parler de ton actualité, un roman, un titre de... T'as dit que tu écrivais des romans.
En vrai, là, pour l'instant, mon activité principale, c'est être étudiante. Et oui, à côté, j'écris, mais en vrai, là, c'est pas encore officiel, du coup.
D'accord. Et Neil, une passion, une activité pour nos auditeurs ? Alors, moi, j'ai cru comprendre que tu étais militaire.
C'est ça. Je suis en deuxième année à l'école navale.
À l'école navale. Et est-ce que passer d'un cadre un peu formaté, militaire, carré, à l'éloquence, qui est un peu plus libre, enfin, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Est-ce que...
Alors, c'est pas des univers parfaitement dissociés. Y a l'éloquence à sa place dans le monde militaire. Elle a des codes un petit peu particuliers qui sont emprunts d'une gravité un peu plus importante que... Dans le civil, mais qui touche tout autant le public. J'ai le souvenir de quand on rentre dans l'armée, on a une phase d'intégration vient le moment où on est présenté au drapeau. Et moi, le jour de ma présentation au drapeau, le chef d'état-major de la marine est venu et il a prononcé un discours, 4 ou 5 minutes, assez rapide. Et je me souviens qu'on a tous été touchés. C'était sérieux, posé, grave, mais il nous a tous touchés, il nous a tous parlé. Il a communiqué avec nous. Donc, pour revenir sur ce qu'on disait en début d'émission, il a communiqué, il a fait de l'éloquence avec nous. Donc, c'est vraiment pas des thèmes qui sont dissociés et qui n'ont aucune porosité entre les deux. Mais sinon, sur les passions, je ne passe pas ma vie à écrire ou à déclamer. J'adore le beach volley.
Juste à côté. J'écoutais des rappeurs qui expliquaient leur technique. Et ils expliquaient que pour trouver le rythme, les rimes, et en particulier le contenu et les rimes, pour eux, c'était une histoire. Ils associaient ça. Ils avaient comme métaphore le basket. Alors, pas le beach volley, mais le basket. Et ils essayaient d'être le plus performant. Et comparer ça au dunk et au panier à 3 points. Alors peut-être que le sport et l'art de l'éloquence ont quelque chose à voir. Paul, et si on concluait cette émission ensemble ?
Alors avec plaisir, mais j'avoue que là j'ai un peu du mal à voir dans les médias le rapport entre le dunk et l'éloquence. Je suis sûr qu'il existe.
C'était dans la performance, mais est-ce que la logique de performance intervient dans l'éloquence ?
La logique de performance intervient dans l'éloquence. Maintenant, l'éloquence, c'est à la fois faire un show pour des gens, parce qu'on parle à des gens et donc on se donne un peu en spectacle. Mais aussi, je trouve que assez paradoxalement, l'éloquence, le discours, associe le fait de se donner en spectacle et donc de montrer une version de nous-mêmes qui n'est pas exactement nous, au fait d'être très honnête et de transmettre une part de nous-mêmes dans nos discours. Je sais que quand moi je discours, quand je fais des discours, c'est ce que j'adore avec l'éloquence, je transmets toujours une part de moi. Dans mes mots, dans ma façon de m'exprimer, dans les idées que je transmets et que je cherche à transmettre, et dans le lien que je crée avec le public dans l'instant, j'essaie de toujours transmettre cette part de moi, et je pense que c'est vraiment l'un des gros intérêts pour moi de l'éloquence.
Eh bien, Léa, merci. Léa, j'ai oublié ton nom de famille, pardon.
Mangenot.
J'allais dire Mangenot, mais Mangenot, il me manquait une lettre. Chad Ben Mahmoud, merci. Donc, je rappelle, Chad, merci. Faut-il se comprendre pour s'accepter? Léa, peut-on croire à une société juste? Tu étais pour. Enil Skandrani, tu étais contre. Peut-on croire à une société juste? Paul Morvan, tu es président de l'association Eloquentia Brest.
Exactement.
La date du prochain atelier?
Prochain atelier, ça devrait être jeudi à 18h30 aux Ateliers des Capucins. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à regarder sur notre Instagram, donc eloquentia.brest, ou à nous envoyer un mail et on vous enverra les informations par mail, eloquentia.brest@gmail.com. Et attention, Eloquentia, ça s'écrit comme éloquence, mais à la fin, c'est pas C-E, mais T-I-A. Voilà.
Eloquentia avec un T.
Exactement.
Eh bien, chers auditeurs, merci d'avoir suivi les élucubrations d'Hermeline. Merci à tous les quatre. Merci. C'est fini pour ce soir.
Merci beaucoup.
Je vous donne rendez-vous pour ma part dimanche 17 mai à 21h dans les élucubrations d'Hermeline, donc sur 101.1 FM. Et vous, quel est votre souvenir vintage? Et le 17 mai, mon invité est Egon Kragel, un écrivain, un musicien et un écrivain qui vient présenter le livre qu'il a publié aux éditions Trédaniel qui s'appelle « OVNI et pop culture » avec David Bowie en couverture. Donc on parlera des artistes qui ont une passion pour les ovnis, ou peut-être certains en ont vu. Et il y aura un invité vintage secret également le 17 mai. Donc on parlera OVNI pop culture. L'émission est en écoute et en réécoute sur www.radio-u.org et en podcast, en streaming et sur YouTube, enfin un petit peu partout. Pour ma part, eh bien, je vous dis bye bye et on lance le jingle. Bonne soirée.
Les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM.